7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. C'est un livre en vente à partir de jeudi prochain et qui est à l'origine de notre échange aujourd'hui. Le livre qui s'appelle Un monde de camps au pluriel, publié aux éditions de La Découverte, est un ouvrage collectif sous la direction de l'anthropologue et directeur de recherche Michel Agier et également de Clara Le Cadet qui est avec nous en studio. Et ce livre brosse en 432 pages un portrait alternatif en creux de notre monde. Exception sécuritaire, les camps. Michel Agier et son équipe internationale de 26 chercheurs répondent en 25 portraits, certainement pas. Alors justement, qu'est-ce que c'est? Que sont ces espaces? Comment y vit-on? Administration, vie sociale, sanitaire, politique, la vie dans les camps de réfugiés est au cœur de nos discussions aujourd'hui, les voisins. Nous nous demanderons aussi quel est l'avenir de ces espaces difficiles à définir et qui pourtant font partie de nos paysages où que nous vivions, pays du Nord, pays du Sud, pays en guerre, pays en paix. Pour en parler avec nous, trois spécialistes, contributeurs d'ailleurs de ce livre exceptionnel, en studio avec moi à Paris, Clara Le Cadet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en anthropologie urbaine, vous avez contribué donc à ce livre un monde de camps, vous êtes intéressée aux réfugiés togolais du camp d'Agamé.
Oui.
Agamé est situé à 150 km à l'ouest de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Profitons-en pour saluer nos voisins béninois et togolais. Vous avez également, madame, à la fin du livre, rédigé un texte sur ces lieux investis par les expulsés, qui apparentes à des camps de réfugiés, mais qui sont des lieux de refuge en réalité, appelés ghettos ou foyers au Mali, vous nous en direz plus tout à l'heure. Pierre Sanslivre, qui est en duplex avec nous, bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur honoraire et après avoir été directeur du département ethnologie de l'université de Neuchâtel en Suisse, jusque-là voilà. j'ai bon.
Oui, ça va.
Et vous êtes considéré comme l'un des pionniers de la recherche sur les camps. Vous avez également apporté votre contribution riche sur les réalités des réfugiés afghans dans ce livre dont nous allons parler depuis les années 80 jusqu'à nos jours. François Gemène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également en duplex avec nous en Belgique, vous. Et vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et de Saint-Quentin. Vous avez beaucoup travaillé sur les déplacements de population liés à des catastrophes naturelles. Et votre contribution au livre Un monde de camps porte sur les camps de réfugiés à Fukushima au Japon.
Voilà, tout à fait.
Nous aurons donc, les voisins, l'éclairage de trois contributeurs au livre et puis le témoignage exceptionnel d'une ancienne réfugiée burundaise qui s'appelle Nadine. Nadine a pu se réinsérer, elle a accepté de partager avec nous un peu de son parcours. Vous êtes nombreux, les voisins, à réagir sur la page Facebook de l'émission. Continuez. Jean-Paul à Kampala nous dit « Je suis réfugié congolais urbain à Kampala, j'habite dans une église, j'ai peur d'aller au camp, je ne saurais pas faire les chants, nous souffrons ici. » Abdoulaye à Abéché nous dit « Être réfugié, c'est le pire des calvaires, il faut devenir mendiant, parfois il faut vendre sa dignité, chacun doit penser qu'il peut devenir réfugié un jour. » Jocelyne à Goma, on est en RDC, nous dit « Dans les camps de réfugiés, la vie n'est pas facile, surtout pour les femmes, ce milieu est insécurisé. Ce qui est étonnant est que même la nourriture leur est vendue. C'est dans ce milieu que les femmes sont violées, les filles sont exploitées sexuellement, discriminées et rejetées. Elles vivent dans de mauvaises conditions. » Alors voilà une première mouture de vos réactions. Les voisins, continuez de réagir. Vous pouvez également le faire en direct et poser des questions à nos intervenants ou encore témoigner de votre vie, que vous ayez été réfugié ou que vous le soyez encore. Un numéro. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Clara Le Cadet, entrons directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on a une idée précise de comment et quand est né le premier camp de réfugiés ? En tout cas, appelé officiellement de cette manière-là.
Disons que l'instauration à l'échelle internationale des camps de réfugiés est bien évidemment liée à l'existence du HCR et à la déclaration 1951 d'un statut sur le réfugié. Disons que les camps recensés dans cet ouvrage remontent pour les plus anciens aux années 50, notamment les camps palestiniens instaurés par l'agence officielle des réfugiés palestiniens.
Celui qui est le plus vieux étant celui de, enfin considéré comme étant le plus vieux, est celui de Shatila.
Je crois que oui, c'est 1949 la création du camp de Shatila. Oui.
Et quel est le statut administratif d'un réfugié? Quels sont les papiers qu'il a et quel est jusqu'où va sa liberté de circuler?
Alors, ce que je voudrais commencer par souligner par rapport au projet général de l'ouvrage Un monde de camps, c'est que le projet porte certes sur l'existence des camps de réfugiés gérés par le HCR et par les ONG.
Le HCR étant
le Haut Commissariat sur les réfugiés.
Aux réfugiés.
Le projet recouvre une réalité plus générale, qui déborde l'existence des réfugiés dont le statut est établi par le HCR. Et les réfugiés officiels, entre guillemets, représentent en vérité une part relativement minoritaire de ceux qui habitent dans les camps aujourd'hui.
Donc l'idée n'est pas tant de faire un zoom sur des réfugiés qu'on compte et qu'on peut dénombrer à la fois physiquement, sociologiquement, mais aussi et peut-être surtout de parler de cette réalité-là, qui est une façon de parler de notre monde, de comment on fait le monde aujourd'hui.
Oui, d'une réalité beaucoup plus globale qui recouvre en fait des réalités très plurielles, qui vont bien au-delà de la simple définition institutionnelle par le HCR du réfugié.
Alors précisément, c'est l'intérêt d'ailleurs d'avoir trois contributeurs qui se sont intéressés à des espaces de réfugiés très différents. Nous allons nous rendre compte tout au long de l'émission que vraiment le point commun, c'est peut-être la dénomination, mais les réalités dans les camps sont tout autres. Je commence avec vous, Pierre Sanslivre. Votre champ de travail, ça a toujours été, et c'est encore, les camps de réfugiés afghans au Pakistan.
Oui, c'est ça, pour l'essentiel.
Voilà, alors le point commun avec les autres camps de réfugiés, c'est, me semble-t-il, vous infirmerez éventuellement, le point commun pour moi, c'est la localisation, le choix de la localisation des camps, généralement pas très salubre, pas facile à vivre.
Oui, c'est exact. Tout d'abord, les réfugiés afghans, comme tous les réfugiés, sont des gens qui ont été déplacés et qui ont été obligés de se déplacer contre leur gré et qu'on a regroupé des emplacements, en général, à l'écart des grandes voies de communication, du moins à l'écart des grandes localités, des villes, et qui vivent une existence précaire faite d'une série d'absences. Absence de leur lieu d'origine, de leur ville ou de leur village natal, absence de toute une série de commodités et souvent de nouvelles des leurs.
Alors ça, c'est pour les points communs avec tous les camps finalement. Quelles sont pour vous, Pierre Sanslivre, les spécificités des camps afghans? Parce que je dis bien des camps, parce que vous m'avez expliqué qu'il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines.
Bon, d'abord c'est l'échelle. Le nombre des réfugiés afghans au Pakistan était énorme. Il a à l'occasion dépassé les 3 millions. Le nombre des camps aussi était considérable, plusieurs centaines. Mais ce qui caractérise peut-être les camps de réfugiés afghans au Pakistan, c'est le fait qu'il s'agit d'espaces non clos. On entre et on sort librement dans les camps. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on soit partout le bienvenu, mais les Afghans ne sont pas confrontés à des murs ou à des fils de fer barbelés.
Comment expliquez-vous cela? Comment c'est possible?
Bon, d'abord, il est très difficile de mettre une clôture autour de ces énormes agglomérations et d'obliger à résidence des Afghans qui sont très nombreux, qui sont en mouvement continuel et qui habitent dans une région où on parle au fond la même langue que la leur, où il y a une proximité culturelle très grande. En fait, les Afghans sont un petit peu chez eux, là, tout en étant bien sûr hors de leur pays, dans le Pakistan et surtout dans la province nord-ouest du Pakistan.
Vous m'avez, pendant que nous préparions cette émission, vous m'avez même expliqué, pour aller dans votre sens, quand vous dites qu'ils sont un petit peu chez eux, vous m'avez même expliqué que certains réfugiés afghans pouvaient partager les habitations avec la population pakistanaise. Ils avaient en partage certains
oui,
camps.
Oui, alors, petit à petit, beaucoup de réfugiés afghans sont sortis des camps. À un moment donné, vers la fin des années 80, début des années 90, il y avait davantage d'Afghans hors des camps officiels qu'à l'intérieur des camps. Mais, par ailleurs, les Afghans n'avaient pas le droit ni la possibilité d'acquérir des terres. Mmh. Donc, il fallait qu'ils passent par un intermédiaire pakistanais, un loueur, un patron, un propriétaire, pour pouvoir trouver à se loger hors des camps. Mais c'était effectivement le cas.
François Gemène, vous avez observé des camps dans les pays en développement et dans des pays développés. Quelles sont les différences et les ressemblances que vous avez vues, que vous avez pu noter entre les deux expériences?
Je dirais que la différence principale peut-être entre les camps qui sont établis dans les pays en développement et ceux qui sont établis dans les pays industrialisés, c'est souvent que les pays industrialisés sont réticents à appeler les camps des camps. Et donc on va souvent les appeler des parcs ou des abris, comme s'il y avait une connotation extrêmement péjorative associée au terme de camp.
Ça a été le cas à Fukushima, enfin ça a été le cas au Japon, mais ça a été aussi le cas aux États-Unis, après Katrina.
Bon, deux exemples récents, après Katrina, les camps de réfugiés, les camps de déplacés de Katrina s'appelaient les trailer parks, donc les parcs à caravanes, tandis qu'au Japon, on a appelé ces camps des abris. Et évidemment, ils prennent des formes assez différentes. On n'est plus face à des tentes, comme on peut les voir dans les pays du Sud. Après Fukushima, on était avec des maisons préfabriquées. Après Katrina, on était avec des caravanes. Mais la logique d'encampement reste profondément la même. Et quand on regarde les caractéristiques des camps, même si logistiquement c'est différent, même si les conditions matérielles sont évidemment différentes, la logique de camp et d'encampement reste la même au Nord et au Sud, mais je ne l'ai pas appelée de la même façon.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, il est midi 22, largement l'heure s'écouter un peu de musique. Je vous propose la brésilienne Carole Conca, ça s'appelle Concha. L'énergie brésilienne de Carole Conca dans 7 milliards de voisins. C'était Cachambu et non pas Conca comme je l'ai annoncé au départ. Aujourd'hui, les voisins, on parle de la vie dans les camps de réfugiés grâce à un livre publié sous la direction de Michel Agier et de l'un des intervenants aujourd'hui, Claire Le Cadet, qui a aussi coordonné l'ouvrage qui s'appelle Un monde de camps. Clara Le Cadet. Elle est en studio avec nous et nous sommes en duplex avec Pierre Sanslivre et François Jemaine, qui sont spécialistes du sujet et qui ont contribué également. Nous sommes, et je vous l'avais annoncé en préambule de cette émission, en ligne avec Nadine depuis le Burundi. Nadine a été réfugiée dans un camp en Tanzanie et elle a accepté de partager avec nous ce que c'est qu'être une réfugiée. Bonjour Nadine. Allô ? Allô,
allô
Nadine ? Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Je le disais aux voisins, vous êtes une voisine burundaise, vous vivez actuellement au Burundi, mais avant cela, dans votre prime adolescence, Nadine, vous avez eu un destin pendant quelques années de réfugiée. Comment est-ce que tout ça a commencé ?
Dans les camps de réfugiés, j'ai commencé à vivre dans les camps de réfugiés en 95.
Oui, vous aviez 13 ans.
Oui, j'avais 13 ans.
Et vous étiez l'aînée d'une famille de 7 enfants.
Oui, oui.
Donc vous êtes, vous viviez au Burundi à l'époque, et puis qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, on vivait au Burundi juste à la frontière de... avec la Tanzanie.
Oui.
Et alors, à cause de l'insécurité qu'il y avait au Burundi, et on a traversé la frontière avec notre maman. Et nous sommes partis vivre en Tanzanie, dans les camps.
Et vous avez, comme ça, pendant 3 ans, vécu dans 3 camps différents, dont l'un des camps qui est évoqué dans ce livre, le camp de Lokwele.
Voilà. Au départ, nous sommes installés dans un camp qu'on appelle Keza. Et là, c'était vraiment, les conditions étaient très pénibles.
C'est-à-dire ?
En fait, au départ, pour les jeunes qui devions aller à l'école, en fait, il n'y avait pas d'avenir parce que les enfants de primaire, ils étudiaient sous les arbres sans livre, sans rien du tout.
Et alors, qu'est-ce qu'ils étudiaient ?
Souvent, je pense qu'on les faisait chanter, les apprenait quelques mots en français. Bon, c'était juste ça parce qu'il n'y avait pas du matériel pour écrire, parce qu'on écrivait à terre, etc. Donc, c'était vraiment pénible.
Et vous, pendant ce temps, Nadine, pendant que les autres apprenaient des chansons ou apprenaient quelques mots de français, qu'est-ce que vous faisiez à 13 ans ?
Alors moi, comme j'avais en fait le niveau d'aller au secondaire, parce que j'avais commencé l'école très tôt, alors j'étais à la maison, je faisais des travaux domestiques. Il n'y avait pas une autre occupation, si c'est pas peut-être quelquefois, avec des petits livres qu'on est parti avec, je faisais la lecture. Juste pour ne pas oublier.
Alors, vous disiez, j'étais à la maison. Est-ce que vous pouvez nous décrire où vous habitiez ? Est-ce que c'était une tente ? Est-ce que c'était une petite maison ? Est-ce que c'était une... Comment c'était ?
Alors, c'était une tente. En fait, on avait un peu la chance d'avoir... On était parti avec une tente, mais les autres avaient ce qu'on appelle le sitting. Alors, qu'on faisait juste une petite maison et on vivait à l'intérieur.
Très bien. Alors, je vais me tourner rapidement vers nos deux chercheurs. François Jemaine, que vous inspire ce début de témoignage de Nadine qu'on va retrouver après le Flash Info ?
J'ai tendance à dire qu'il me rappelle en fait beaucoup la vie de réfugiés et de déplacés que j'ai pu observer dans les camps, dans les pays industrialisés et que fondamentalement, les aspects de la vie quotidienne, et notamment la manière, la relation au camp, sont finalement assez similaires. Et souvent, on s'imagine que les pays industrialisés font les choses mieux, ou gèrent mieux les déplacements, gèrent mieux les catastrophes que les pays en développement. Ce n'est pas nécessairement vrai.
Ce n'est pas l'expérience que vous avez.
À prendre. Et souvent, on constate que les pays industrialisés ont du mal à imaginer que ce type de catastrophe, que ce type de déplacement, que ce type de camp puisse exister également sur leur territoire et que donc ils y sont très mal préparés. Et donc en fait, les pays en développement ont beaucoup à apprendre. France, vous pouvez être spécialisé en matière de gestion des déplacements et de gestion des camps.
La vie dans les camps de réfugiés, c'est notre sujet d'échange aujourd'hui, les voisins. Loin des fantasmes, c'est la réalité de ces espaces difficiles à nommer que nous questionnons aujourd'hui avec trois spécialistes de la question. Clara Lecadet avec moi en studio, François Jemaine que vous venez d'entendre et Pierre Sanslivre que vous entendrez tout à l'heure. Et vous aussi, et puis Nadine que vous avez entendu à l'instant. Nous l'entendrons tout à l'heure. Vos témoignages et questions au 33 84 22 71 71.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Les réfugiés sont censés être les victimes et non les agents de l'histoire. Si les réfugiés apportent avec eux politique, histoire et violence, ils troublent l'image de la pure victime qui a besoin d'être aidée au nom de l'humanité. Ces mots sont extraits d'un livre qui est à l'origine de l'émission du jour, Les Voisins. Le livre s'appelle Un monde de camps. Il paraît jeudi prochain aux éditions de La Découverte et trois des contributeurs à cette somme qui, en 25 portraits, entre guillemets, de camps, nous dressent un portrait en creux de notre monde, de comment nous le vivons, où que nous vivions. Avant le flash information, nous étions avec Nadine qui a été réfugiée, qui est burundaise, qui a été réfugiée en Tanzanie, qui nous apportait son témoignage, le témoignage de son quotidien. Elle était alors adolescente, elle avait 13 ans, dans un camp en Tanzanie. Nous avons aussi eu la réaction de l'un de nos intervenants, François Jemaine, qui faisait le lien finalement entre les camps du Nord et les camps du Sud, pas si différent que ça dans les réalités de temps, mais différent dans la gestion que peuvent en avoir notamment les pays du Nord, peu préparés finalement aux catastrophes et qui donc devraient, d'après ce que nous dit Monsieur Jemaine, pourraient s'inspirer des camps du Sud. Qu'est-ce que cela vous inspire, Clara Lecadet ? Et ensuite, je vous donnerai la parole, Pierre Sanslivre.
Oui, l'idée du livre est celle d'un dispositif global de camps, d'un continuum, effectivement, entre les camps du Sud, dont la figure du camp de réfugiés qui prédomine nos représentations sur les camps.
Quand on dit camp de réfugiés, on pense pays du Sud.
Oui, et puis on pense camps en général. C'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y ait des réalités de camps qui diffèrent de l'image dominante, écrasante, de celle du camp de réfugiés diffusé par les images compassionnelles du HCR. Et cette idée d'un continuum entre des lieux du Sud et des lieux du Nord qui ne portent pas forcément le nom de camp, mais qui correspondent aux mêmes logiques de mise à l'écart, c'est cette idée-là que le livre défend pour montrer que finalement la condition de vie dans les camps, elle permet de parler de réalités diverses qui parlent de la mondialisation en général. C'est-à-dire que les camps, ça ne concerne pas forcément simplement que les réfugiés, ça concerne aussi les migrants, que ce soit les migrants en route vers leur pays de destination ou même ceux qui sont expulsés, ça concerne aussi les travailleurs. Il y a une très belle étude de Tristan Brûlé sur les camps de travailleurs migrants au Qatar et les conditions de leur mise à l'écart dans les pays même où ils travaillent. Oui. Et puis, il y a aussi les expulsés qui sont touchés directement par la problématique des
Donc
camps.
Donc des visages différents, mais une voilà. Réalité, une tension qui est dans un continuum. C'est, voilà. C'est ce que vous indiquiez. Pierre Sanslivre.
Oui.
Nous ne vous avons pas encore entendu sur le témoignage de Nadine.
Alors j'ai été très touché par le témoignage de cette personne qui était un enfant à l'époque. Oui. Et qui nous a parlé de problèmes d'éducation et d'apprentissage. Et je crois que ce problème se pose dans tous les camps de réfugiés, en particulier dans les camps du Pakistan, où aussi bien les HCR d'un côté que les partis politiques de la résistance afghane de l'autre ont mis sur pied des écoles de niveau élémentaire, mais des écoles dans la plupart des camps.
Alors justement, Nadine, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Super. Alors justement, vous nous disiez que dans le premier camp, le camp de Keza où vous étiez, il n'y avait pas d'enseignement, mais vous avez changé de camp avec votre famille, vos six frères et sœurs et votre maman. Et dans d'autres camps, vous avez pu avoir accès à un peu plus d'éducation ?
Oui, lorsque nous sommes allés dans les autres camps, le premier camp s'appelait Guitaré.
Oui.
Alors là, il y avait une école secondaire qui commençait. Aussi, il y avait des écoles primaires aussi qui étaient construites et donc les enfants maintenant étaient suivis.
Très bien. Et alors, le troisième camp dans lequel vous avez déménagé, enfin, dans lequel vous êtes retrouvé plutôt avec votre famille, était celui de
Roucolé.
Mmh.
Le camp de Roucolé.
Et là, est-ce que vous avez pu étudier un peu plus?
Oui, là, c'était encore au mieux parce que, en tout cas, les conditions étaient améliorées parce qu'on nous envoyait des livres. Donc, on avait même une petite bibliothèque.
Et que faisait votre... Oui, pardonnez-moi, continuez.
Alors, le problème qui se posait, c'était beaucoup plus les conditions de vie qui étaient là. Donc, beaucoup de jeunes filles abandonnaient très tôt l'école pour se marier. Il y avait des mariages précoces parce qu'elles pensaient avoir une meilleure vie en se mariant.
Et ça n'était pas du tout la manière dont pensait votre mère à vous?
Non, et notre maman nous encourageait à étudier parce qu'on était séparés du papa. On ne savait pas s'il était encore vivant, mais elle nous disait chaque fois, lorsque votre papa vous retrouverait et que vous n'avez pas continué vos études, ça lui ferait beaucoup la peine.
Et donc, plutôt, c'est ce qui vous a détourné, pensez-vous, d'une envie de vous marier?
Oui, parce que là, il y avait des influences et nous, on nous disait, voilà, est-ce que cette école, est-ce que c'est, on va retourner au Burundi, est-ce que ça sert à étudier ici, on n'aura pas de travail. Mais donc, on nous influençait beaucoup en nous disant, il faut se marier. Mais nous, on suivait les conseils de maman qui s'est battue beaucoup pour que nous continuions les études.
Et c'est un combat qui a payé, puisque finalement, votre père vous a retrouvé?
Oui, finalement, le papa, lui aussi qui était au Congo, il y avait la guerre de Kabila, il a fui en Zambie. Après, il est allé au Burkina Faso. Donc, il a fait des recherches avec la Croix-Rouge. Et il nous a retrouvés dans les camps de Roucolé et puis le HCR a réalisé la réunification familiale.
Et donc toute la famille s'est retrouvée où?
Alors toute la famille on s'est retrouvée au Burkina Faso et on a continué la vie quotidienne avec les parents.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors moi, j'ai fait mes études secondaires là-bas au Burkina Faso, j'ai continué. J'ai fait des études universitaires et j'ai fait le droit.
Et aujourd'hui, vous êtes avocate?
Oui, aujourd'hui je suis avocate et au Burundi.
Et en plus, il y a une... Je me permets d'entrer dans votre vie privée, Nadine, parce que c'est une histoire qui se termine tellement joliment. C'est que alors, vous êtes avocate, vous travaillez dans un cabinet. Et le mois prochain, c'est une autre belle nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle encore. Je vais fonder mon foyer. Voilà.
Mais écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et félicitations.
Merci.
Belle journée à vous, Nadine.
Merci à vous.
Et merci encore. Qui veut réagir? Clara Le Cadet, en studio d'abord.
Oui, le témoignage de Nadine me faisait penser à la manière dont les femmes gèrent la vie dans les camps et au rôle très important qu'ont les femmes, notamment dans les protestations politiques qui émergent à l'intérieur des camps. Il y a beaucoup des mouvements, des protestations qui sont nées dans les camps, qui ont été menées par des femmes qui dénonçaient la précarité des conditions de vie dans lesquelles elles étaient plongées hein, et qui dénonçaient aussi les violences qu'elles subissaient en premier lieu. Oui.
Pierre Sanslivre.
Oui. Oui, alors, la condition des femmes, bien sûr, dans les camps du Pakistan était difficile. En général, les fillettes étaient retirées de l'école par leurs parents à la puberté
parce que les parents estimaient que c'était pas la place de jeune fille pubère d'aller dans un espace public sans surveillance particulière. Mais aussi, beaucoup de fillettes étaient astreintes à des tâches ménagères. C'est les jeunes filles, les enfants, les femmes qui allaient chercher l'eau dans les puits publics des camps. Donc, il y avait toutes sortes de raisons, de mauvaises raisons ou de bonnes raisons qui faisaient que les parents retiraient les fillettes des écoles après une ou deux années d'études.
Alors, je vous propose, Pierre Sanslivre, François Gemène et Clara Le Cadet, de réaccueillir Nadine, parce qu'en fait, une auditrice, une voisine, avait une question et une belle question à lui poser qui rejoint un peu ce dont nous parlons en ce moment, la condition des femmes et comment elles vivent. Et c'est une question assez précise que Binti va poser à Nadine. Alors, merci Nadine d'être restée. Et bonjour Binti d'abord.
Oui.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour Binti, je vous laisse poser votre question à Nadine.
D'accord. J'ai deux questions. La première, c'est comment ils cohabitent dans ces camps ? Parce que les garçons comme les filles, ils sont âgés. Comment ils arrivent à s'en sortir pour que chacun garde son intimité dans des conditions pareilles?
Ben, ça, c'est la première question. Et la deuxième?
La deuxième, c'est que ces gens-là doivent avoir des souvenirs qui les hantent, des images qu'ils gardent en eux tout le temps. Peut-être que parfois, ils se sentent eux-mêmes coupables. Ils se disent, je devrais faire quelque chose pour ma famille, je devrais faire quelque chose pour les sauver. Mais on sait qu'ils étaient incapables, on sait que ce n'est pas de leur faute. Mais à eux, peut-être à un moment donné, ils peuvent se sentir un peu coupables.
D'accord.
Et je me demande, est-ce qu'il y a des spécialistes, des psychologues qui les aident à traverser cette étape de leur vie?
Bon, alors nous allons poser directement la question à Nadine. Nadine, vous êtes toujours là, n'est-ce pas?
Oui, je suis là.
Merci beaucoup. Alors, la première question que Binti vous posait, c'est celle de la promiscuité entre hommes et femmes dans les camps. Vous nous avez parlé de votre mère qui a été un écran, qui vous a protégé et qui a fait en sorte que vous vous concentriez plutôt sur l'instruction que sur autre chose, que sur la vie avec les garçons. Mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à éviter une trop grande promiscuité avec les hommes? Parce que, comme le disait Binti, vous êtes adolescente, puis vous devenez adulte dans les camps, donc on finit par se croiser.
Voilà, en fait, ça, c'est une question peut-être de discipline de chaque famille.
Oui.
Donc, on ne pouvait pas nous empêcher aussi de côtoyer les hommes, les garçons, parce que, en fait, comme on est dans un lieu public, lorsque vous partez même à l'école, vous croisez les hommes, vous partez au marché ou allez même pour aller puiser l'eau, aller chercher du bois. Tout ça, c'était des occasions où, justement, beaucoup étaient bernés. Alors, je pense que pour nous avons eu la chance, comme déjà il y avait... ma mère était un peu sévère, et puis bon, avec ses conseils, donc on a essayé de suivre. Et puis chaque enfant, en fait, avait une envie de revoir le papa et tout, qu'il ne soit pas celui qui sera grondé, je sais pas, et celui qui sera maravillé, je sais pas.
Envie de faire en sorte que quand vous le retrouviez, vous soyez fier, et qu'il soit fier de vous, et qu'il voit que vous avez tenu bon, quoi.
Voilà, c'est ça qui nous a encouragé beaucoup plus d'espoir qu'on va le retrouver un jour. Alors, c'est ça qui nous a encouragé. Et même si on pensait qu'il était mort, on se disait, bon, il serait fier, même si on se bat comme il le voulait.
Très bien. Et alors, deuxième question que Binti vous posait, c'est celle de la culpabilité, Nadine. Comment fait-on quand on a vécu ce que vous avez vécu, donc une trajectoire de réfugié, donc avec des images à l'esprit, vous avez vécu une forme d'impuissance, vous êtes déplacé d'un point à un autre. Comment est-ce qu'on se construit adulte et surtout, qu'est-ce qu'on en garde? Est-ce que vous vous sentez coupable de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous dites que vous auriez pu et dû faire les choses autrement?
Pour moi, je dis que ça a été le destin que j'ai pu passer dans ces différents endroits, Alors, aujourd'hui, c'est pas une question de culpabilité, mais c'est plutôt une question de compensation, de, en fait, je ne sais pas comment le dire, un sentiment de partage de ces moments pour que aussi on puisse penser à toutes ces personnes qui vivent la même situation. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la
oui,
question.
Oui, assez clair. Binti,
oui.
Est-ce que Nadine a répondu à votre question ? Pas de culpabilité, mais au contraire, la volonté de raconter et puis éventuellement de réfléchir à des compensations. Merci pour votre question, Binti, pour vos questions. Et Nadine, merci d'être restée un peu plus longtemps. Cette fois-ci, je vous libère, je vous laisse tranquille. Et je propose à vous et aux voisins d'écouter la musique de Nada. Ça s'appelle « Don't lose your way ».
أمحى الماضي مع النسيان أبدأ ركز على المستقبل حرر نفسك من القيود
كلمة تلم صادقة كانت طالعة من القلب وصي في بنت الخايفة تكسر قضبان السجن تمشي في أحسن درب تنسى الرهبة والكرب مظلومة محرومة وديما خاشة في حرب مع مجتمع مش راضي مهما اشتغلت فيه بجد حط نفسه هو القاضي عليها وما ضرت حد طموح أحلام هذه ديروا لها حد أختي بنتي وصاحبتي نوضي ما تقوليش تعبتي أنت اللي لازم تبدي وأنا ديما معاك الحق
s'appelle Don't Lose Your Way, c'était Nada, une artiste libyenne, et cette chanson est extraite d'un disque qui rend hommage aux actions et au combat des femmes dans les pays traversés par ce que l'on a appelé les révolutions arabes à travers des voix de chanteuses, un projet monté avec l'organisation Media in Cooperation and Transition. Nous parlons aujourd'hui, les voisins, de la vie dans les camps, de ce que c'est qu'être un réfugié. Nous avons eu le témoignage d'une femme qui a été réfugiée burundaise en Tanzanie. Et nous sommes avec nos trois spécialistes de la question, trois contributeurs au livre Un monde de camp, en studio Clara Le Cadet et au téléphone Pierre Sans Livre et François Jemaine. On a parlé, messieurs, madame, de la vie du quotidien des camps et du rapport entre les hommes et les femmes. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de ce qui ne se dit pas vraiment, et ce dont ne nous a pas parlé Nadine, par exemple, la vie politique. Je sais que dans certains camps, notamment un camp que vous avez étudié, Clara Le Cadet au Bénin, la politique est quand même importante,
et très,
même si
elle
n'est pas censée y être.
Oui, voilà. C'est vrai que la représentation courante, c'est que le camp est un espace exclusivement géré par le HCR et les ONG et que...
De neutralité absolue.
Voilà, un espace apolitique. Et un certain nombre des études rassemblées dans cet ouvrage remettent en cause cette idée du caractère apolitique du camp pour montrer au contraire que c'est un espace où la vie politique se reconstitue, où il existe des rivalités politiques et surtout un besoin exprimé par les réfugiés d'auto-organisation politique, c'est-à-dire de trouver dans leurs relations avec le HCR et les ONG des porte-parole, des représentants qui portent leur voix auprès des autorités gestionnaires des camps.
C'est-à-dire qu'ils portent leur voix pas seulement sur leurs besoins premiers, mais aussi sur leur besoin d'exister en tant que citoyen dans un pays.
Alors effectivement, les demandes portent à la fois sur les préoccupations les plus quotidiennes, mais aussi sur une question évidemment cruciale qui est la question statutaire.
Vous avez un exemple concret?
Oui, alors par exemple le camp d'Agamé qui a été créé à la suite de la crise post-électorale liée à l'élection du président togolais en 2005. Camp créé au dans le Bénin
à l'ouest
voisin,
du Togo,
oui,
de Cotonou, pardon.
Voilà, du Bénin. Dans ce camp d'Agamé, les réfugiés ont cherché très vite à se trouver des représentants, des porte-paroles qui leur permettent d'exprimer leurs revendications quant à l'obtention d'un statut auprès du HCR, un statut qu'ils n'ont jamais obtenu. Mais ce qui est très intéressant et qu'on sait en général peu sur les camps de réfugiés, c'est que ces réfugiés se sont organisés de manière à élire un président des réfugiés qui était leur représentant, leur voix auprès des autorités gestionnaires du camp.
Alors, ce qui est intéressant avec ce que vous dites, Clara Le Cadet, c'est que quand je le compare avec l'expérience qu'a pu vivre François Gemène, par exemple, à Fukushima, dans le camp d'Agamé au Bénin, la politique est au cœur du camp. À Fukushima, la politique gère le camp, François Gemène.
Oui, tout à fait, puisque c'est des camps qui sont installés par les autorités, et que les autorités dictent aussi aux gens quand ils doivent rester dans le camp et quand ils doivent revenir. Et aujourd'hui, un véritable projet politique du retour dans les territoires contaminés,
oui,
ce qui génère au sein des camps de très importantes tensions.
Un projet pour le moins utopique, étant donné que le lieu censé être le lieu de retour est loin d'être décontaminé.
Bien sûr, ce sont des lieux qui restent dangereux et donc le gouvernement veut faire courir un danger en forçant la main, entre guillemets, aux déplacés et en les forçant à retourner, notamment en leur menaçant de leur couper les vivres, en tout cas de leur couper leurs allocations, s'ils refusent de retourner. Donc on voit des tensions dans les camps entre ceux qui veulent rester dans le camp, entre ceux qui veulent retourner et entre ceux qui veulent quitter le camp. Bien sûr, ce ne sont pas des camps fermés, donc chacun a le droit d'aller et venir, mais tous dépendent du gouvernement pour les allocations et pour les compensations et l'aide qui est apportée. Et donc, ce qui est très frappant, on discutait tout à l'heure des rapports entre hommes et femmes, on voit par exemple dans la zone de Fukushima un taux de divorce qui explose pour le moment, parce que les hommes et les femmes, les maris et leurs femmes, n'ont pas du tout la même vision. Pour l'homme, ce qui est important, c'est de récupérer son boulot et de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pour la femme, souvent, ce qui va compter, c'est de mettre ses enfants en sécurité à l'abri des radiations, et on va voir des couples qui vont se déchirer quant à leur perspective de retour. Et donc, c'est véritablement, même si la catastrophe date d'il y a plus de 3 ans, je dirais que le traumatisme social, ses conséquences de long terme sur la cohésion des communautés continuent à produire des effets tout à fait destructeurs aujourd'hui.
François Gemène, vous avez prononcé un mot qui est aussi important et central quand on parle des camps, et là je me tourne vers vous, Pierre Sanslivre, c'est celui de l'allocation. L'argent que drainent les camps peut-être aussi intéressant quant à leur existence et leur pérennité, alors même que ce sont des espaces censés être provisoires.
Bon, dans les camps de réfugiés au Pakistan, les réfugiés recevaient une aide alimentaire, essentiellement alimentaire, médicale, sous forme de rations. Les allocations en argent étaient rares et intermittentes. Mais c'est vrai que les camps de réfugiés avaient une signification économique importante, parce que le camp servait et sert toujours, dans une certaine mesure, de lieu de repli, de lieu où les Afghans pouvaient s'établir d'une façon provisoire, même après la fin des hostilités en Afghanistan, pour pouvoir chercher du travail au Pakistan ou ailleurs. C'est un lieu également où on pouvait mettre en sécurité une partie de sa famille. Et pendant ce temps, les hommes de la famille, eux, pouvaient chercher du travail.
Vous êtes en train de nous dire, Pierre Sanslivre, que au fond, les familles s'organisaient avec les camps, peuvent faire partie de l'organisation familiale. Madame et les enfants dans le camp, monsieur qui va chercher du travail à l'extérieur du pays.
Bon, le cas était assez fréquent. Je parle d'une situation postérieure au retrait soviétique,
oui,
donc postérieure à la phase aiguë du conflit afghan, où effectivement les camps au Pakistan étaient considérés par beaucoup de personnes qui y avaient passé, et par d'autres également, comme un endroit où l'on pouvait séjourner temporairement, on pouvait mettre sa famille à l'abri, où on pouvait séjourner temporairement en attendant de trouver du travail, en attendant d'autres solutions. C'est même un endroit où on pouvait envoyer ses enfants parce que, à certains égards, il était plus facile de trouver des formes d'éducation, des écoles, apprendre l'anglais au Pakistan que sur le territoire afghan. Mmh. Donc, ces camps au Pakistan, au bout d'un certain temps, bien sûr, et pas dans tous les cas, n'étaient pas tant des lieux d'enfermement ou de contrainte qu'une sorte d'espace à l'écart où la vie était certes difficile, mais elle était également protégée et elle permettait à une partie de la famille d'autres activités. Il servait également de relais vers d'autres localisations.
Alors, ce qui me mène à une toute dernière question que j'ai posée à Clara Le Cadet, puisque vous avez coordonné cet ouvrage, quel avenir voyez-vous pour les camps ? Avec ce que vous nous avez apporté les uns et les autres, on imagine mal une fin prochaine.
Non, c'est vrai que ce que ces études démontrent malheureusement, c'est que les camps constituent une réalité majeure du monde actuel et que les problématiques du travail des immigrés, de la mobilité à l'échelle internationale, etc., nourrissent l'existence de ces camps et on imagine mal, en tout cas dans un futur proche, que la réalité comme ça très importante des camps à l'échelle mondiale
vienne
à disparaître.
Merci beaucoup Clara Le Cadet, merci infiniment François Jemaine et Pierre Sanslivre, tous trois contributeurs de cet ouvrage qui était au centre de nos échanges, Un monde de camps aux éditions de La Découverte. Le livre est disponible en librairie à partir de jeudi. Merci également à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Mallet-Solartz. Demain les voisins, on parle des nouveaux défricheurs, ces Français qui cherchent à changer la société d'aujourd'hui pour un monde plus équitable. À demain.